L'heure philo. Henri-Marc Mutel à la réalisation, Chantal de Montagny à la préparation, Loïc Frapsos aux manettes, Djoubaka à la programmation musicale et Barbara Cassin pour inviter. Barbara Cassin, philosophe, philologue, membre de l'Académie française. La plus grande partie de ses recherches porte sur les philosophes grecs, d'une part, et la question de la rhétorique, d'autre part. Son dernier livre paru, Le Bonheur, sa dent douce à la mort, c'est chez Fayard.
France Inter, l'heure philo. Patricia Martin.
Barbara Cassin, bonsoir.
Bonsoir.
Quelle joie de passer cette heure avec vous. Est-ce que vous vous reconnaissez si l'on vous dit que vous êtes une femme lumineuse ?
J'adorerais me reconnaître.
C'est pourtant le cas, je vous assure. Vous êtes, on se dit à vous lire, que vous êtes fidèle au fond à l'incarnation du bonheur que vous étiez pour vos parents. Vous étiez la petite dernière, vous êtes née juste après la guerre et ça a été un cadeau.
Oui, j'ai eu l'impression qu'ils savaient qu'ils étaient en vie parce que j'étais née.
De votre enfance, vous retenez une jolie devise qui a dû être un appui merveilleux toute votre vie. Tout est possible.
Cette devise, elle n'a jamais été prononcée.
Oui. Implicitement.
Oui,
vous
je pense.
Que c'était ça.
Je pense que mes parents se sont débrouillés pour ne pas poser de limites. Et les limites se posaient toutes seules. Et ça, j'adore ça. Je pense que c'est vraiment de l'éducation, ça.
Mais comment est-ce que les limites se posent toutes seules quand on est un enfant ?
Eh bien, par exemple, une scène dont je me souviendrai toujours, j'étais vraiment petite parce que j'arrivais pas à descendre du lit sans me laisser glisser. Enfin, j'avais peut-être 6 ans ou un truc comme ça, peut-être même 5. Et l'appartement était minuscule. La cuisine était tout contre ma chambre, tout contre mon lit. Donc j'entendais les parents qui recevaient des amis dans la cuisine et qui riaient. Et je me suis levée pour... alors que j'étais couchée, j'aurais dû dormir. Je me suis levée et ils m'ont accueillie, ils m'ont prise sur leurs genoux, ils m'ont donné quelque chose à manger, ils ont été me recoucher doucement. Et puis j'ai été réveillée à nouveau par leur bruit, très gai ce bruit. Et je me suis relevée et... Je suis retournée dans la cuisine et ils m'ont pris sur leurs genoux et ils m'ont redonné quelque chose ou rien, je ne sais pas. Ils ont été me recoucher doucement. Et puis, je me suis réveillée une troisième fois. Et là, j'étais coupable. Je me suis dit, ça, c'est pas possible. Là, ça, c'est trop. Là, ils vont m'engueuler. Et je suis quand même descendue, mais tremblante. J'y suis allée et ils m'ont pris sur leurs genoux. Et puis, très tendrement, ils ont été me recoucher. Eh bien, ça... c'est construire des limites pour toujours. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, et bon, ça s'arrête tout seul.
Il est philosophe, il est romancier, dramaturge, Alain Badiou. Quelque chose me dit que vous le connaissez. Alain Badiou, sur France Inter, donc.
Je pense que l'amour, d'un point de vue en quelque sorte immédiatement presque métaphysique, c'est tout de même l'expérience la plus radicale qui existe de l'autre. Et cette expérience est radicale parce que, d'une certaine manière, dans l'amour, il y a la nécessité, et en un certain sens le vœu, d'accepter que l'intégralité de quelqu'un d'autre soit une figure de votre propre vie. Et de ce point de vue-là, la dialectique amoureuse, c'est une dialectique de l'autre en un sens particulièrement intense. Et si on considère qu'après tout, l'expérience et la dialectique de l'autre est un point essentiel non seulement de la vie, de l'existence, mais aussi, en fin de compte, de la pensée, des positions qu'on peut prendre sur le monde, et à la fin des fins, des prises de parti politique, etc. Il est certain que l'amour est une sorte d'expérience radicale de cela. C'est pour ça qu'il m'est arrivé de dire que, à mon sens, l'amour, c'était le communisme minimal. Le communisme à deux, voilà. Et j'entendais par là, c'est une image, mais j'entendais par là qu'il est l'expérimentation de ce que c'est que l'humanité tout entière, mais dans la figure de l'acceptation d'un autre.
L'amour, le communisme à deux, on reconnaît là son inspiration marxiste. C'est délicieux ce qu'il dit, non ?
Oui, oui, oui.
C'est quelqu'un d'important, Alain Badiou, dans votre vie. Vous avez d'ailleurs signé un livre ensemble, homme, femme...
Plus d'un.
Trois, bon. Mais dont un, homme, femme, philosophie. Vous, femme et sophiste, et lui, homme et platonicien.
Et mathématicien.
Vous vous entendiez bien ?
On s'entend toujours très
bien. Vous vous voyez toujours ?
Ah oui, oui. On dirige une collection ensemble chez Fayard. Et oui, on s'entend très bien, ce qui ne veut pas dire qu'on soit les mêmes. On est vraiment très autres. Très différents, très différents l'un de l'autre. Et on a fait cette expérience, homme-femme philosophie, on a fait un séminaire commun sur Parménide aux États-Unis. Et c'était vraiment extraordinaire de le voir parler en mathématicien et en logicien, et moi en helléniste et en amoureuse du langage. C'était vraiment quelque chose de très contrasté.
Il dit de vous, Barbara Cassin, que vous écrivez la philosophie comme vous l'écrivez parce que vous êtes peintre.
Oui, il pourrait dire autre chose. D'abord, je pense que je l'écris comme je l'écris parce que je suis femme. Mmh. Et puis, peintre...
Vous peignez ?
Oui, je peins. Et je peins comme ma mère peignait et comme mon père peignait. Donc je peins aussi par héritage et par goût. Ce qui est en tout cas de vrai... C'est que j'aime regarder, voilà. Et je suis bien quand je regarde. Et j'aime, au fond, regarder la lumière.
Quand je vous dis que vous êtes une femme lumineuse, votre mère vous peignait.
Oui.
Elle regardait la lumière de sa fille.
Oui, elle regardait beaucoup la lumière de mes yeux.
Ouais.
Ma mère peignait mes yeux.
Ouais.
Et elle me parlait pour que je la regarde.
Mais vous auriez pu ne jamais, au fond, faire de philosophie. Et est-ce que qu'est-ce qu'il faut pour faire de la philo qui n'est pas forcément nécessaire pour quand on peint ?
J'ai fait de la philosophie. Je peux raconter pourquoi et comment. Parce que j'ai été émerveillée par le droit de poser des questions totales. Bon, Badiou parle de l'expérience radicale de l'amour. Moi, c'est l'expérience radicale de la question absolue. Donc, on a le droit de se demander est-ce que Dieu existe ? On a le droit de se demander qu'est-ce que ça veut dire la vérité ? On a le droit de se demander c'est quoi la justice ? Je trouve ça fou. Et donc, le fait que ce soit un métier m'a enthousiasmée. Bon, ça, dès la classe de philo. Donc, c'est pour ça que je fais de la philo. Mais j'aurais pu ne jamais en faire, bien sûr, parce que j'adorais faire autre chose. C'est-à-dire que, d'abord, je voulais être actrice.
Vous auriez pu être actrice.
J'aurais adoré ça. J'ai fait le cours du lin. Ensuite, j'ai fait des trucs d'actrice de temps en temps. Et c'est une satisfaction totale. Mm-hmm. Ensuite, j'adorais danser. J'adore toujours. Et ça aussi, c'est une satisfaction totale.
Mais vous dansez... quelle danse pratiquez-vous
J'ai commencé, quand j'étais petite, j'aurais voulu être petit rat de l'opéra. Et ma mère m'a dit, mais tu sais, à 30 ans, c'est fichu. Ou même à 20, ou même...
Bon. Il faut peut-être encore plus d'endurance pour être petit rat de l'opéra que pour être philosophe, non ?
Probablement. Probablement, c'est plus dur. Et c'est peut-être moins lent et moins long. Et puis, y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire et peindre. Je sais que je ne suis pas peintre pour une raison très simple. C'est-à-dire que j'adore peindre, c'est pas le point. Et j'adore essayer de faire ce que je vois et suivre quand quelque chose apparaît sur la toile que je ne voyais pas vraiment. Et donc prolonger cet inconnu bizarre qui se montre sur une toile. Mais je ne passe pas ma vie à ça. C'est-à-dire que je m'arrête quand je trouve ça bien. Alors qu'en philo, c'est pas du tout le cas. Quand je trouve ça bien, je m'arrête pas, je continue. Et je trouve ça mal après. Et j'accepte que ça soit mal et de revenir et de continuer jusqu'à ce que ça soit à nouveau bien et à nouveau mal. Je veux dire que un métier, ça n'est pas une passion. C'est autre chose. Avoir pour métier sa passion, c'est magnifique. Et c'est le cas en philo. Mais pour la peinture, c'est juste une passion, c'est pas un métier. Pour moi. Je ne suis pas capable d'être peintre.
Yéli Yéli sur France Inter. Yéli Yéli, c'est un pseudo en kabyle, ça signifie la fillette. Et il se trouve que le grand-père de Yéli Yéli l'appelait ainsi.
Oh,
Le poète écrit son nom. La poésie, Barbara Cassin, vous colle à la peau.
Oui, parce que le langage me colle à la peau, oui. Mm-hmm. Et que c'est une manière incroyablement libre de ne pas user du langage.
Le titre de votre dernier livre paru, c'est « Le bonheur, ça dans douce à la mort ». C'est donc un emprunt fait à Rimbaud.
Oui, c'est une phrase de Rimbaud qui m'a réveillée plusieurs fois dans ma vie. Et la phrase complète, c'est « Le bonheur, sa dent douce à la mort, m'avertissait au chant du coq, ad matutinum, au Christus venit, dans les plus sombres villes. » Moi, j'ai été réveillée dans les plus sombres villes par quelque chose comme le bonheur et la mort mélangés.
Vous écrivez vous-même des vers, Barbara Cassin ?
Ah, j'ai beaucoup écrit de poèmes, et puis j'ai même fait une revue de poésie murale avec des amis pendant pas mal d'années. J'avais 18 ans ou quelque chose comme ça. J'ai vendu des poèmes dans les marchés. On avait des étals comme ça, et on disait, non mais vous êtes sûr, vous voulez seulement des poireaux ou bien vous voulez quand même lui rapporter aussi un poème?
C'est pour ça que René Char disait de vous, tu es poète?
Non, c'est pas pour ça, je crois pas.
Pourquoi alors, disait-il ça?
Parce qu'il avait vu quelque chose dont je n'étais pas sûre. Il avait vu en moi quelque chose dont je n'étais pas sûre. Et que on en est sûr que quand on vous le dit. Donc il fallait que ça soit dit.
Allégeance, René Char.
Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus. Qui au juste l'aima? Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus. Qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas.
On a envie de se taire après ça. La poésie vous a aidé dans votre façon, enfin oui, vous a aidé, on peut dire, oui, à aborder ou influencer en tout cas, dans votre la façon que vous avez eue d'aborder la philosophie.
Oui, c'est, en tout cas, elle a énormément compté, mais on peut dire qu'il y a une scène matricielle qui est quand même le rapport entre Heidegger et Char, puisque j'étais au séminaire du Thor et que je les ai vus tous les deux.
Le Thor, c'est donc un endroit et c'était un an après les événements de 68. Hein,
c'est oui, ça c'est ça. Donc c'était chez Char ou dans son alentour. Mmh. Heidegger était invité par un certain nombre de philosophes, dont François Fédier, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et il avait invité aussi, enfin il se trouve que j'étais aussi invitée. D'ailleurs, je crois que j'étais la seule femme invitée. Et jeune fille. Et voilà, je les ai vus ensemble. Heidegger était... pour moi, le grand philosophe par excellence, vivant, je veux dire. Mmh. Et Char, que je ne connaissais pas et que j'avais très envie de rencontrer, le poète par excellence. Et de leur contact, j'ai compris quelque chose, je crois, entre philosophie et poésie. Et au fond, j'ai préféré la poésie, même si j'ai fait de la philosophie. Je me souviens de tous les deux en train de parler. Et là, vous avez entendu Char avec un ton de voix très majestueux. Mais le ton de voix majestueux, c'était...
Heidegger.
C'était majestueux en dessous. Mm-hmm. Un cran en dessous. Mm-hmm. Comme un professeur. Et comme un professeur étonné d'être là en même temps. Et donc, il disait à Char, voilà, nous sommes comme chacun sur une montagne, on se fait face et on se fait de grands signaux. Et Char dit, ouais, moi je dirais plutôt, on est deux prisonniers dans des culs de basse-fosse et puis il y a un petit trou et de temps en temps il y a quelque chose qui passe. Ben voilà. Et du coup, j'aimais mieux la modestie de la poésie qui n'est pas analogue à la splendeur de la voix de Char. Hein. Mmh, mmh. Et j'aimais mieux la modestie de la poésie, je la trouvais plus juste.
Alors, vous venez de raconter, de dire votre admiration pour Heidegger. C'est pas un philosophe, enfin, il n'est pas réputé en tout cas pour être très, très accessible.
Oh. Bon.
Ben quand... voilà. Non, mais bon, quand on n'a pas une formation philosophique, c'est ardu quand même.
Ben, non, c'est la chose est très compliquée. Tous les philosophes sont idiosyncrasiques, ils ont leur idiome. Et je crois tous, sauf peut-être les grands artistes philosophes. C'est-à-dire pour moi, Platon n'a pas vraiment son idiome, Aristote n'a pas vraiment son idiome. Ils sont lisibles, pas en français évidemment, en grec ils sont lisibles. Et Heidegger, lui, il a massivement son idiome. Et donc c'est en ça qu'il est un peu difficile à comprendre, mais malgré tout, ça peut se résumer assez vite.
Alors, non. Allez-y. Petit exercice.
Non. Je regrette aussitôt cette phrase, évidemment.
Mais non, mais dites-nous un petit, donnez-nous envie d'aller voir.
En tout cas, ce qu'a fait Heidegger, qui m'a vraiment attirée, c'est qu'il a lu à nouveau, complètement, les premiers Grecs, les présocratiques. Et il les a lus d'une manière grandiose. Alors là, aussi grandiose que la voix de Char. Et il les a lus comme ouvrant l'aurore, etc. Simplement, aussitôt, on comprend qu'il se passe quelque chose de suspectement grave, pardonnez-moi cette invention terminologique. C'est-à-dire que, quelque part, ces philosophes ne sont tels que parce qu'ils parlent une langue enracinée dans une race et dans un peuple et dans un sol, autrement dit parce qu'ils sont authentiques. Et là, ça devient gravissime.
Bah, quand vous parlez de race et de peuple,
vous entendez bien.
On a beaucoup reproché à Heidegger son...
Vous l'entendez bien. Donc, c'est ça qui était si étrange et si compliqué. Comment ce nazi pas encore déclaré absolument nazi aux yeux de tous, se retrouvait chez un grand résistant. C'était très intéressant. Et comment ce grand philosophe, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est celui qui manie les concepts, on va dire, après Kant, Hegel et après Nietzsche. C'est bien lui. Bon. Eh bien, comment ce grand philosophe se retrouvait avec ce poète qui a peut-être une voix aussi une voix de stentor comme ça, comme la manière dont il s'encadrait dans la porte, mais qui en même temps est si délicat, si justement si dépourvu, en même temps qu'il est incitatif. Voilà. Comment ça se fait, tout ça? Et donc, moi, j'ai été confrontée à ça tout de suite, et j'ai choisi la philosophie parce que la poésie me paraissait encore plus dure, encore plus difficile à atteindre. Et parce que on n'est pas poète de métier, même si il y en a. On est poète par don. Et vraiment, il y a besoin d'une muse. Et je n'étais pas sûre d'avoir une muse ou d'être. Il fallait en tout cas que Heidegger, que Char puisse me dire tu es poète pour que j'ose le croire un instant. Bon, tandis que il y a pas de muse, il y a pas besoin d'une muse. Il y a besoin de lire et il y a besoin de travailler et il y a besoin de critiquer quand on est philosophe.
Mais Barbara Cassin, si vous n'aviez pas connu le grec ancien, vous ne vous seriez pas frotté au philosophe grec, parce que vous l'avez un peu dit là, en disant qu'il faut bien sûr lire en grec.
Oui.
Ça veut dire, parce que là aussi, ça parle de l'exercice de traduction, qui est un exercice
Absolument.
Que vous connaissez bien, qui est un exercice très difficile. Voire impossible, enfin, quelquefois. Vous avez même été l'auteur.
Oui, j'ai fait un dictionnaire des intraduisibles.
Des intraduisibles.
Oui, oui. Mais si vous voulez, la langue originale dans laquelle un texte est écrit est imparable. Bon. Donc, moi, je ne peux pas lire l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire la grande œuvre morale d'Aristote, en grec. Ça, c'est du pipi de chat. Je veux dire, en français.
En français.
En français, c'est du pipi de chat.
Il faut le retraduire.
Mais certes, il faut le lire en grec. Et je suis pas sûre. Il faut le lire en bilingue. Et moi, j'ai toujours, dans les maisons d'édition par lesquelles je suis passée, qu'il s'agisse du Seuil ou chez Fayard, fait des bilingues. Parce que les bilingues, au moins, on peut expliquer l'intelligence des différences.
Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, un texte comme celui auquel vous faites allusion, enfin, ne passe pas l'épreuve, en quelque sorte, de la traduction, parce que c'est un peu ça?
Oui, c'est ça, parce que les mots sont hyper banalisés en français. Les mots de la morale, c'est de la moraline tout de suite. En grec, c'est autre chose, ils ont une tonne d'harmoniques. Par exemple, vous dites « l'homme est la mesure de toute chose ». Bon, ça vous dit quelque chose, ça? C'est pas Aristote, c'est Protagoras. Mais bon, ben, si vous regardez ce que veut dire métrone, c'est déjà plus complexe et plus intéressant. Et ça s'oppose, il y a un tas d'harmoniques. Et par exemple, ça s'oppose à quelque chose comme le bien est la mesure de toute chose, ou le Dieu est la mesure de toute chose. Et ces phrases sont incluses dans la phrase qui vient d'être dite en grec. C'est ça qu'il y a de absolument magnifique, c'est que il y a dans un mot grec tous les usages de ce mot et qui sont présents en conscience. Je veux dire qu'un grec qui écrit connaît tout ce qui s'est dit, entend Homère à travers lui. Parménide, le grand présocratique, celui dont Heidegger dit par exemple que les quelques vers conservés permettent de brûler toutes les bibliothèques, enfin de les jeter, eh bien Parménide reprend des vers d'Homère. Les gens s'en aperçoivent pas. Moi je m'en suis aperçue avec un bonheur extraordinaire. Mais par exemple, quand Parménide décrit l'être, c'est-à-dire ce qui sera pour toujours le sujet de la philosophie. Quand il décrit l'être, eh bien, il emploie les termes qui servent à décrire Ulysse, attaché à son mât, passant au large des sirènes. C'est dingue, quand on y réfléchit un instant, c'est dingue. Eh bien, ça, vous l'entendez en grec. Et vous l'entendez parce que c'est suspect. Qu'est-ce que c'est que cet être qui est, alors je vous le dis en grec, empedon ototi mimno. Il a les pieds solidement plantés dans le sol. Alors évidemment, si on vous dit il est solidement fixé, l'être est bien fixé. Bon, ça va. Mais les pieds solidement plantés dans le sol, ah, là vous commencez à vous demander qu'est-ce qui arrive. Eh bien, il arrive des vers de mer. Vous voyez? Et ça, si vous ne le sentez pas, si vous ne le travaillez pas, eh bien, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous êtes dans l'almana vermo de l'éthique.
C'est joli comme expression, ça. Barbara Cazin, sur votre épée d'académicienne, puisque je rappelle que vous êtes à l'Académie française, vous en faites partie, il est écrit...
Plus d'une langue.
Voilà. C'est une expression de Derrida.
C'est une phrase de Derrida. Et dans le même livre, il dit « Et une langue, ça n'appartient pas ». Bon. Oui, je pensais que au moment, bon, d'abord parce que je travaille sur la différence des langues, sur la traduction, sur le savoir-faire avec les différences, un savoir-faire politique que représente la traduction, et puis parce que je pense que l'Académie française a à défendre et à illustrer la langue française, et que ça ne se fait que si la langue française est une parmi d'autres. Sinon, ça fait du nationalisme ontologique à la Heidegger sur l'allemand, langue encore plus authentique que le grec. Et là, on est fichu.
Elle est assez étrange, j'ai vu une photo de cette épée.
Oui.
On dirait une toupie qu'il vous lui avait ajoutée. Qu'est-ce que c'est ?
Non, il y a une petite statue qui sert de,
oui, mais,
de garde.
Oui, hein? Mais il y a une sorte de... Oui, comme, je ne sais pas, j'ai l'image d'une toupie parce que c'est...
Il y a un cercle.
Un cercle, c'est ça.
Qui est, après la statue, qui est une statue d'une tombe là où on imagine qu'était Troie, donc une tombe barbare. Mmh. Ce qui compte beaucoup pour moi, et je peux expliquer pourquoi. Parce que les Grecs avaient le logos, c'est-à-dire la raison et le langage, dans un seul mot. Et à côté de ça, il y avait les barbares, c'est-à-dire ceux qui, comme moi, qui s'appellent Barbara, faisaient bla bla bla. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas. Donc moi, je suis du côté de ceux qu'on ne comprend pas. Et bon, et du côté des barbares. Alors, ensuite... À côté de cette statue qui est absolument magnifique parce que c'est une femme avec des seins dorés, des boucles d'oreilles et un chapeau doré et des bottes dorées, bon, elle est incroyable. Bon. À côté de cette petite statue, dessous, il y a en effet quelque chose comme un bracelet. Mmh. C'est un bracelet montre en fait. C'est un bracelet montre connecté. Enfin, c'est de là, disons, on nous a... LVMH, à vrai dire.
Aïe, 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 la pub sur France Inter, ça va pas du tout. Rétro-pédalon.
M'a donné ce bout de connexion, si vous voulez, cet ordinateur, mini ordinateur, connecté comme une montre, par lequel je peux avoir contact avec tous les textes du monde, comme vous sur votre ordinateur. Et donc, c'était ça qui m'intéressait. Donc, c'est ça le rond que vous voyez. Et après, il y a une épée non létale en cuir et en fibre optique sur laquelle est inscrite plus d'une langue.
Barbara Cazin, l'unique. Les Gabriels sur France Inter, c'est un trio américain.
Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Help but smile. Trouble. troubled fortunes lies in shambles underneath a flashing light. Gonna stay a while. Said what I say, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
Et pour en revenir au titre de la chanson que nous avons, que nous venons d'écouter, blame, est-ce qu'il faut traduire par blâme, par faute, par responsabilité? Tout est une question de contexte. C'est bien difficile, c'est bien compliqué la traduction. Il était historien de la philosophie, philosophe politique et penseur de l'histoire, François Châtelet.
Les sophistes, ce sont d'étranges personnages. Je ne sais pas si l'on peut admettre qu'il y a deux générations de sophistes, comme le fait Sailor, par exemple. Mais en tout cas, il semble bien que, dans un premier moment, les sophistes ont été simplement des professeurs d'éloquence qui n'avaient pas de doctrine, qui se contentaient d'apprendre aux gens à parler, soit dans les affaires publiques, soit dans les affaires privées, et qui demandaient pour cela des émoluments considérables, qui demandaient une cotisation à leurs élèves très élevée. Et puis, il semble que, par la force des choses, que par la technique d'enseignement qu'ils avaient, les sophistes se sont mis à développer une doctrine, si l'on en croit Platon, tout au moins. Doctrine contre laquelle s'élève, ou semble s'être élevé avec beaucoup de vigueur, Socrate. Les sophistes, d'abord éducateurs de la démocratie, sont devenus ensuite des éléments politiques douteux, attaquant la démocratie.
Barbara Cassin, en deux mots, là encore, je suis désolée, il faut résumer, quelle est la doctrine des sophistes?
Non, ça marche pas.
Ça marche pas, non, on peut pas. Non, mais c'est quoi?
Et ces deux générations, ça marche pas.
Ouais.
Ne serait-ce que parce que c'est parce qu'ils parlaient et parce qu'ils enseignaient à parler qu'ils étaient à la fois susceptibles d'être. Enfin, c'est les instituteurs de la Grèce. Bon. Hegel dit quelque chose comme ça. Et même les maîtres de la Grèce, mm-hmm. les maîtres en éloquence et les maîtres en politique. Bon.
Mais l'éloquence, ça veut dire, c'est les effets du discours, en
oui,
fait, c'est un peu
et
ça.
C'est surtout ce que c'est que parler. Et à partir de là, on peut dire, ils disent n'importe quoi. Ils parlent si bien qu'ils font croire n'importe quoi. Et donc, on les accuse d'être démagogues.
Et c'est pour ça qu'on les a un peu mis de côté, à un moment
non,
donné?
Non, c'est Platon non, qui c'est les Platon. A... Enfin, c'est toute la philosophie.
Oui, c'est ça.
Via Platon et Aristote. Mmh, mais le fond du fond de la chose, c'est que ils parlent, Aristote dit, pour parler. Ils parlent pour le plaisir de parler. Ils enseignent à parler pour parler, comme on fait de l'art pour l'art. Et ça... ça oblige à écouter ce qui est dit, les sons de la voix, ce qu'il y a dans les sons de la voix et dans les mots. Autrement dit, vous ne faites plus attention au sens, vous ne croyez plus à l'univocité du sens. Mais, comme vous dites tout à l'heure à propos de blame, vous entendez toutes les harmoniques et vous en jouez. Parce que c'est comme ça la langue, c'est comme ça les langues. Et là, vous êtes dans un monde qui n'est plus platonicien ni aristotélicien. Et surtout plus aristotélicien, à mon avis, Aristote a vu plus loin, là, que Platon. Aristote dit, parler, c'est dire quelque chose. Dire quelque chose, c'est signifier quelque chose, pour soi-même et pour autrui, la même chose. Signifier une seule chose. Un mot doit avoir un seul sens. Et puis vous faites donc, vous commencez à faire des dictionnaires, et puis vous commencez à dissiper les homonymies. Oui, mais on ne dissipe pas forcément les homonymies, c'est plus complexe.
Ouais, hein. Ouais.
Bon, en tout cas, pour Aristote, un mot doit avoir un seul sens. Donc, ces sales sophistes, eh bien, ils font jouer les sens d'un mot. Et, alors il y a une phrase que j'adore.
Un peu comme les psychanalystes.
Eh bien voilà, il y a une phrase de Lacan, j'allais y venir, que j'adore, qui dit « Une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. » Autrement dit, c'est la polysémie, c'est l'équivoque qui fait l'identité d'une langue. D'où le dictionnaire des intraduisibles, etc. D'où le travail sur la traduction, qui est un travail absolument passionnant, parce que ça montre eh bien, les différentes visions du monde. Le fait que, par exemple, Pravda veuille dire d'abord justice et pas d'abord vérité, c'est très intéressant. Vous pouvez croire que ça veut dire vérité, il y a un journal qui s'appelle comme ça. Non, ça veut dire justice. Le premier recueil de loi, c'est la Pravda. Bon. Et du coup, ça n'est pas la même manière, si vous voulez. Pravda est pour nous un homonyme, si ça veut dire justice et puis vérité. Et pour les Russes, pour la Russie, pour la langue russe, eh bien c'est vérité qui est un homonyme. Parce que qu'est-ce que c'est que cette chose qui veut dire. Vous voyez, là on est dans la discordance. Ce qui m'intéresse, c'est quand on croit qu'on se comprend et qu'en fait, on ne se comprend pas. Et alors, là, ça vaut la peine de chercher. Ça, c'est ce que font. C'est ce vers quoi m'a conduit la sophistique. Comprendre qu'on ne se comprend pas, mais ça fait du bien, ça permet de se comprendre. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'usage, si vous voulez, sophistico ou psychanalytique, vous pouvez dire, l'usage de la pluralité des sens d'un terme, des sens d'une phrase, de ce qu'on entend et pas seulement de ce qu'on veut dire. Ou de ce qu'on croit vouloir dire. Là, ça devient très intéressant. On comprend que ça soit absolument insupportable au philosophe Bontin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on veut? De quoi on me prive de la rationalité? Mais pas du tout. On l'augmente, d'accord. Mais bon, avant d'en arriver à l'idée que peut-être on augmente autrement la rationalité en faisant rentrer une partie de ce qui n'y rentrait pas. Les mots d'esprit, par exemple. Bon, eh bien, il faut du temps.
Est-ce qu'il y a une façon d'aborder la philosophie? Alors, c'est peut-être complètement idiot ma question, mais qui est genrée. C'est-à-dire que, est-ce qu'une femme va aborder la philosophie de la même manière qu'un homme?
Là, on a fait un livre avec Badiou, Femme philosophie, vous le rappeliez tout à l'heure. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut attribuer au genre et ce qu'il faut attribuer à la personne.
Eh oui, c'est ça.
Et je pense que personnellement, quand on me dit « tu philosophes comme ça parce que t'es une femme »,
ça vous énerve.
Non, j'ai envie de dire « mais c'est pas du tout vrai, voilà. Je philosophe comme ça parce que je suis philosophe ». Et quand on me dit « tu philosophes comme ça parce que t'es philosophe », je dis « non, c'est plutôt parce que je suis une femme, là, tu vois ». Bon, donc, ce que je trouve insupportable, c'est les assignations d'essence. Vous êtes figé, homme, femme, une fois pour toutes, et vous ne bougez plus. Bon, moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir jouer des assignations d'identité. Voilà.
Avec vos propres enfants, vous vous êtes livré un peu à des jeux philosophiques, à des choses qui leur étaient abordables?
Oh, je ne me permettrais pas. Non, je ne me permettrais pas.
Quand ils étaient petits?
Non plus. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est eux qui m'ont appris de la philosophie.
C'est votre fils, un jour, c'est ce que vous racontez.
Voilà.
Ça, c'est extraordinaire. Vous voulez bien raconter cette histoire?
Oui, oui.
Vous la racontez donc dans Le bonheur, sa dent douce à la mort.
Oui. Bon, je passe à côté de mon fils qui était tout petit, puisqu'il marchait pas encore. Et il se tenait à la glace, au miroir qu'on a dans la cuisine. Et je passe à côté de lui et je lui dis, toi, tu pues, t'as fait dans ta culotte. Non, maman! Bon. Et puis il se regarde dans la glace et dit « menteur ». Et ça, j'ai trouvé ça génial, puisque c'est évidemment, qui mentait sans mentir, tout en ne mentant pas. Et du coup, il est plus question d'une vérité avec un grand V. C'est beaucoup plus compliqué que ça, tout de suite. Et ensuite, j'ai enseigné la philosophie, très peu de temps, mais quand même un peu, on a fait des tentatives en maternelle. Et là, on posait la question aux enfants, est-ce que t'es grand ou est-ce que t'es petit? Et il y a un enfant qui m'a répondu, mon petit frère dit qu'il est grand, et c'est vrai. C'est pareil, si vous voulez, la notion de vérité philosophique platonico-aristotélicienne, elle est très fortement ébranlée par ces scènes de vie.
Mais quand vous dites là, par exemple, aller vers les enfants de maternelle avec un petit bagage philosophique, c'est formidable. Pourquoi est-ce qu'on attend aussi longtemps dans le cursus
Parce qu'on est coincé. Derrida voulait qu'on fasse de la philosophie beaucoup plus tôt. Et il y a des lieux, parfois en Suisse, où on fait de la philosophie très tôt. Maintenant, il faut être armé aussi, si vous voulez, il faut être armé, j'en sais rien, ou il faut être naïf. Il faut accepter d'être délocalisé par rapport à son savoir. C'est peut-être pas si simple.
Vous avez travaillé, j'ai vu, avec votre fils Victor pour ce livre,
oui.
Le bonheur, ça dans douce à la mort. En quoi vous a-t-il, secondé, aidé, ou peut-être
d'abord,
guidé, je ne sais pas.
Tout ça un peu. D'abord, il était présent en face, comme un... Après tout, qu'est-ce que c'est un psychanalyste? C'est un mur qui vous renvoie les choses. Ouais. Bon, il était présent comme un mur, et puis comme un mur de temps en temps élogieux, et de temps en temps en train de me dire « mais c'est complètement idiot ». Bon. Et un mur parlant, là, vraiment.
Ouais.
Et c'est très précieux, ça. Ouais. Et il se trouve que moi, quand j'écris de la philosophie, peut-être que j'écris de manière un peu difficile. Peut-être que tout ce que je sais est plutôt encombrant. Dans ce livre, peut-être déjà dans la nostalgie, mais dans ce livre en tout cas, comme je me posais vraiment la question de pourquoi je philosophais comme je philosophe, la philosophie ne m'encombrait pas puisqu'elle était à l'état natif, si j'ose dire, naïf. Et il m'a beaucoup aidé à ne pas écrire de manière trop compliquée, institutionnellement philosophique.
Il se trouve, alors là je vais vous poser une question peut-être un peu indiscrète, mais il s'appelle Victor Legendre. Legendre, c'est le nom de son père, un nom que vous n'avez jamais voulu porter.
Oui, parce que Madame Legendre, il y en avait plein. Et bon, c'était pas la peine.
Ouais, c'était pas la peine.
Non, c'était pas la peine de leur ressembler.
Et pourtant, vous écrivez des lignes très belles sur votre mari. J'ai épousé un homme qui était vraiment un autre, mais des autres, il y en a encore plus que des mêmes. J'avais bien conscience que c'était un autre entre autres, précisément pas l'autre, avec une majuscule, au superlatif, le plus autre des autres, qui serait de nouveau l'unique, le seul, le mono, qui ferait un couple, comme l'avaient fait mes parents.
Oui, mes parents étaient un repoussoir pour moi comme couple. Ils se sont aimés absolument follement, etc. Mais je crois que je peux tout résumer d'une scène. Quand ma mère et mon père étaient sans gueulettes de manière très très violente. Et un jour, mon père a suivi ma mère dans la salle de bain, et tout ça dans une espèce, pardonnez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot que gueulante. Hein. Et elle s'est levée de la baignoire et il s'est arrêté de parler. Il l'a regardée et il a dit « voilà ce qui est devenu l'amour de ma vie ». C'est une chose terrifiante. Donc, ça, c'est le rapport à l'un. Donc, non, pas ça, pas moi. Et voilà.
L'amour de sa vie qui était, enfin, c'était pas n'importe qui, votre mère, parce que là aussi, vous racontez une scène terrifiante où elle a un esprit, une vivacité d'esprit,
oui,
folle qui a sauvé la vie finalement de
son mari.
De son mari.
Oui, oui. Mes parents donc étaient juifs et réfugiés pendant la guerre dans un petit village qui s'appelait Navarinx. Ma mère allait à la messe pour aller à la messe comme tout le monde. Et les Allemands ont frappé à la porte en disant bon, madame, vous, ça va, vous allez à la messe, mais votre mari, il est juif. Au-delà de dénonciation sur lui. Et ma mère, qui était une femme magnifique, s'est drapée dans sa beauté et dans l'encadrement de la porte, et a dit, moi, épouser un juif? Jamais! Ils sont partis. Évidemment, mes parents se sont enfuis la nuit même.
C'est extraordinaire. Et à propos de la beauté, d'ailleurs, vous faites un parallèle, Barbara Cassin, avec Simone Veil.
J'ai eu la chance d'être envoyée dans un petit camp quelques mois après mon arrivée, peu de temps après, parce que il y avait une capot du camp qui trouvait que j'étais trop jolie. Il faut dire que j'étais passée de Nice, où j'avais une vie à peu près normale, puis j'étais restée très peu de temps à Drancy. Et ensuite, donc, contrairement à la plupart des gens qui étaient restés dans des ghettos, qui étaient restés et qui avaient déjà subi beaucoup de choses, moi, j'étais très peu... j'étais quelqu'un qui sortait de la vie civile. Et c'est certainement une des choses qui m'a sauvée. D'ailleurs, cette capot qui était très terrible et qui a même été exécutée par les Anglais quand il y a eu la libération de Bergen-Belsen, elle m'a à deux reprises aidé beaucoup.
Ça, j'imagine que forcément ce rapport à la beauté, qu'est-ce que c'est que la beauté, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que le beau, le bon, c'est la même chose, Barbara Cassin, ce sont des questions que vous avez forcément dû vous poser.
Le grec se la pose, ou plutôt la résout, en faisant un mot valise, kalos kagatos, ça veut dire bel et bon, beau bon. Et il y a donc un rapport entre le dedans et le dehors. Ce qui ne veut pas dire que la beauté soit une beauté traditionnelle. Socrate était, paraît-il, très laid, il ressemblait à un silène. Mais son dedans et son dehors correspondaient. Bon, le rapport âme-corps, ou appelé âme, on peut appeler ça d'un autre nom, je m'en fiche. Mais voilà, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Quand on regarde quelqu'un, on sait si on peut l'aimer ou pas.
Est-ce que votre mari vous a attiré aussi quand vous l'avez vu, quand vous l'avez connu, parce que c'était lui, parce qu'il était ainsi fait ?
Sûrement, il avait des yeux verts, qui étaient extraordinaires. Mais quand je l'ai rencontré, il était, il dirigeait un club hippique et donc c'était mon maître de manège.
C'est lui qui vous a... Non, c'est pas lui qui vous a appris l'amour des chevaux, en fait.
Non.
Vous l'aviez déjà avant.
Enfin, oui, je montais déjà à cheval. Mais bon, il m'a appris peut-être à ne pas avoir peur. Voilà.
C'est beaucoup. Est-ce que vous lui avez... Alors, je suis coquine, je vous pose des questions indiscrètes. Est-ce que vous lui avez beaucoup menti? Est-ce que, d'une manière générale, Barbara Cassin, vous avez menti dans votre vie? Parce que ça aussi, vous en parlez dans votre livre, dans votre dernier livre, et c'est un sujet absolument passionnant. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, la vérité, une et seule, évidemment, ne vous intéresse pas, parce que ça, c'est limite un peu... Enfin, ça ressemble un peu à de l'idéologie. Et donc, il faut mentir, mais il faut mentir d'une certaine manière. Il ne faut pas tromper l'autre non plus.
Oui, c'est ça. Bon, je dis, en prenant l'exemple de ma mère que j'évoquais tout à l'heure, que mentir est un art de combat. C'est vrai. Et c'est aussi un acte d'amour. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut mieux... pas dire, c'est pas la peine. Mais en même temps, j'ai eu l'impression, enfin je dis quelque part que j'ai beaucoup menti et jamais trompé, ce qui est vrai. C'est-à-dire que j'ai toujours laissé la possibilité qu'on comprenne. Voilà.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a des philosophes, et notamment Kant par exemple, qui avaient cette phobie du mensonge?
Parce que si vous voulez être mathématicien en philosophie, si vous voulez faire une loi morale... Eh bien, il faut qu'elle soit universalisable. Et donc, vous ne pouvez pas universaliser le mensonge. Jamais.
Alors, Barbara Cassin, j'imagine qu'il y a des auditeurs en ce moment qui se demandent si vous avez quelque chose à voir avec René Cassin, l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Eh bien, la réponse est oui.
La jeunesse en veut aux hommes plus anciens parce que ils n'ont pas tiré des deux grandes guerres les leçons nécessaires. Quand on voit la lenteur que l'Europe met à se faire pour avancer le plus petit pas, on se dit, mais quand sera-t-elle faite? Ce sont les machineries qui sont lentes, les rouages qui grincent, les soi-disant chefs qui regardent 20 ans en arrière. Voilà.
C'était René Cassin, donc en 1976. Il était, par rapport à vous, c'était votre...
C'était le cousin, c'est mon grand cousin.
Voilà, pour lequel d'ailleurs vous n'avez pas beaucoup de sympathie, probablement de l'admiration pour ce qu'il a fait, là, oui. Ce qu'il vient de dire, c'est quand même...
C'est parfait.
C'est parfait.
Je ne l'avais pas entendu encore.
C'est vrai.
Oui.
Mais bon, il vous a, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous l'avez vu la seule unique fois de la vie, de votre vie où vous l'avez vu?
Il m'a dit, tu es la fille de Pierre. Pierre, c'est le seul type bien de la famille, il m'a jamais rien demandé. Qu'est-ce que tu veux? C'était très drôle, mais je crois pas qu'il avait envie d'être drôle.
Et il avait beaucoup d'ambition pour vous?
Non.
Non, mais je dis ça pour rire. Parce qu'est-ce qu'il vous a dit que...
Il m'a dit, d'abord il m'a conseillé d'aller voir un philosophe que après 68, plus personne ne pouvait voir dans ma génération. Mm-hmm. Et ensuite, il m'a dit, si tu veux pas aller le voir, apprends la sténo. Je te recommanderai comme secrétaire.
Oui. Quels ont été, Barbara Cassin, vos plus grands bonheurs dans l'existence? Ça a été l'amour, la maternité, le grec, les rencontres, les voyages.
Tout ça. Oui. Je suis plutôt une femme. Je me sens heureuse. Mais je me sens heureuse parce que quand je me lève le matin, je vois la lumière. En fait, je me souviens d'un tout petit article qu'on m'avait demandé pour Libé, qui était ma définition du bonheur. Et c'était voir la lumière et parler à quelqu'un. Oui, c'est pas très compliqué.
Parler à quelqu'un, pas toujours, parce que je me permets de donner cette information aux auditeurs. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez passé une quinzaine de jours toute seule récemment, après avoir eu beaucoup, beaucoup de monde dans votre maison, et qu'en fait ça a été une ivresse.
Oui, mais c'est l'ivresse de ne pas parler.
Ouais.
Non, mais j'étais ivre de lumière là, parce que c'est une maison sur l'eau, et je vois le monde devant moi se dérouler heure après heure, et jour après jour. Donc c'est vraiment de l'ivresse. Et puis, parler à quelqu'un, après tout, ça peut être parler à soi-même.
À condition de se comprendre.
À condition de... Oui, de pas se tromper. Hein, de mentir, mais pas se tromper.
Mais je ne me trompais pas, moi, en pensant que cette heure serait un bonheur, cette heure passée avec vous. En tout cas, Barbara Cassin, merci beaucoup. Le dernier livre en date, il y en a beaucoup, et il y en aura d'autres, j'imagine, très vite. Le bonheur, sa dent douce à la mort, est une autobiographie philosophique qu'on peut lire, mais alors, comme on lit un roman. Et c'est chez Fayard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Juste après les informations uniques en son genre de Julia Foyce, et la semaine prochaine dans L'Heure Philo, nous recevrons Roger Paul Droit.